Salut Daniel, salut Christophe, c'est François. Bah écoutez, je viens vous donner des nouvelles du grand rebond en avant qui a commencé samedi dernier à Amiens. Plus de 300 personnes se sont soulevées dans une salle archi-comble. Alors Gérard Filoche a proposé l'incarcération immédiate au Ritz de Denis Gauthier-Sauvagnac et Laurence Parisot pour association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée. Notre comité de salut public, Picard, a approuvé la mesure à l'unanimité. Serge Halimi a réclamé que Tony Blair, Jacques Attali et Dominique Strauss-Kahn soient condamnés pour haute trahison du peuple de gauche. J'ai demandé à ce que Vincent Peillon et Manuel Valls soient rajoutés sur la liste et que leur peine consiste à curer les marais de la Somme. L'assistance a voté cette sentence à main levée par contumace. On frôlait tellement l'insurrection que tout un banc de socialistes, oui, tout un rang de socialistes, va approuver le retour de la lutte des classes, du jamais vu depuis longtemps. La presse locale, bien sûr, n'a pas soufflé mot de notre soulèvement amiénois. C'est bon signe. Ils redoutent que notre exemple n'allume d'autres foyers ailleurs. Mais même sans eux, sans les médias, l'incendie prendra bientôt dans les cœurs comme sur une plaine trop sèche. Seule ombre au tableau, l'absence remarquée de notre guide à tous, Brigitte Jean Perrin. Bah écoutez, voilà, merci Daniel, salut Christophe, et bonne journée à vous. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Jean-Gilles de Niort. Un petit renseignement généreux tiré du canard enchaîné du 5-12-07 qui pourra intéresser bon nombre d'AMG. Je lis un bout de l'article. Tous les portables sortis récemment peuvent être transformés en micro. Il suffit que l'opérateur envoie un code informatique pour déclencher à distance le mode écoute discrète, à condition que le portable reste en veille. Le policier peut alors entendre tout ce qui se dit dans la salle à manger, le bureau, etc. Magique, non ? À bientôt.
Oui, bonjour, c'est Marie de Houille. Je fais partie du réseau Éducation sans frontières et je voudrais alerter les sans-papiers de ne surtout pas se présenter sans accompagnement aux préfectures pour faire les démarches qu'ils ont besoin de faire. Il faut absolument qu'ils soient toujours accompagnés. Merci, à bientôt.
Bonjour. Alors voilà, j'écoute les informations concernant les OGM. Eh bien, je suis ravie de la décision, mais entre guillemets quand même. Comme José Bové, je pense qu'il faut rester sur ses gardes. De la part du type qui nous sert de président, il faut rester sur ses gardes. C'est un pingre, ce type. Il est vicieux. Donc, faut bien s'en méfier. Bien s'en méfier. Autrement, on est ravis, évidemment, nous qui vivons en Creuse, nous qui cultivons nature, nous qui sommes en train d'installer une éolienne pour avoir notre autonomie électricité, c'est génial. Nous qui avons de l'eau qui vient d'un puits, nous sommes ravis et nous soutenons à fond José Bové et tous les autres anti-OGM. Et il faudrait que le président... Il se méfie bien de nous, il se méfie bien du fin fond de nos campagnes. Nous préparons la révolution. Attention à vous. Voilà, voilà. Plein de belles choses à tout le monde. Au revoir, c'est Cathy en Creuse.
Cette petite musique, cette petite voix, ce ton-là, on l'a entendu sans doute résonner un peu partout dans la France profonde, samedi matin ou vendredi dans la nuit, pour ceux qui étaient bien informés, suite à ce qu'on va vivre aujourd'hui avec vous, amis modestes et géniaux, auditeurs modestes et géniaux, c'est-à-dire la fin du mont 810, on va appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Cette grève de la faim qui a été suspendue vendredi soir, on a suivi tout ça. Ou plutôt, c'est Antoine Chao qui a suivi tout ça depuis plusieurs jours. Ça nous intéressait de savoir si une lutte vieille de 10 ans, ça fait 10 ans que ces faucheurs sont engagés contre les OGM, pouvait un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, aboutir à quoi que ce soit. Eh bien, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Cette soirée, cette victoire, il faut bien appeler ça une victoire, c'est une bataille qui a été gagnée avec prudence, avec circonspection, sans triomphalisme, mais enfin quand même avec beaucoup de joie et de plaisir. Et puis, voir un peu les perspectives, la suite de cette histoire héroïque. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Allô Daniel, salut, c'est Laurence de Gourdon du Lot. Voilà, c'était pour te dire qu'aujourd'hui, on est à la gare de Gourdon, on est très très nombreux, on est des manifestants, ça fait des jours et des jours. Il y en a marre, ça fait des jours que tous les vendredis, on est là pour bloquer des trains parce qu'ils ont décidé, la SNCF a décidé de supprimer des postes et de supprimer des arrêts de train. Et il y en a marre parce qu'à Gourdon, on a perdu notre maternité, on vient de perdre notre tribunal, on va perdre notre sous-préfecture. Et là, voilà, maintenant les arrêts vont être supprimés, la météo aussi, et voilà. Donc on en a marre parce que nous, on veut que ça continue la gare. Il y a plein de jeunes ici qui ont envie d'aller travailler, qui ont envie d'aller faire des formations. Et on vient d'apprendre là que... Et eh ben l'association qu'on a montée tous ensemble pour les gares de Gourdon et Souillac dans le Lot, la SNCF vient de porter plainte contre elle parce que elle arrête des trains et on va continuer nous parce qu'on veut pas laisser tomber. Alors si tu peux nous soutenir et venir nous voir ou quelque chose comme ça, il y a pas de problème, on est là tous les vendredis soirs à 18h30. Allez, à bientôt et donc dans le Lot et on vous attend et bon courage. Salut.
Oui, c'est Jean-Gilles de Niort. Je proteste vigoureusement contre ceux qui abusent du répondeur de là-bas si j'y suis. Voilà.
Ben, excusez-moi, c'est l'accueil, c'est pas pour laisser une annonce, mais je pense que vous avez commandé quelque chose et ça y est là. Donc, si vous écoutez ce message, vous m'appelez ou vous descendez à l'accueil pour le réceptionner. Merci.
Alors ce soir, c'est finalement Matignon qui...
Qui épluche les légumes ? Ah, il y a moins de monde là tout de suite, hein ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a suspension des cultures.
Alors on va même de manger.
Alors là, il y a 17 bols sur la table et chacun va boire un petit bol de bouillon.
Ça risque d'ailleurs de déclencher la colère des agriculteurs de la FNSEA.
Après, il y a de la soupe qui chauffe encore. Hein.
Alors ce bouillon...
C'est une victoire sans doute pour José Bové qui avait entamé une grève de la faim le 3 janvier pour réclamer cette clause de sauvegarde.
Des saveurs oubliées. Pas depuis très longtemps, mais des saveurs oubliées quand même.
Il n'y aura donc pas de semis de Mont-810 dans les champs français au printemps.
Salut, c'est Daniel Mermel à Bassie. J'y suis avec Antoine Chao. On ne perd pas toujours.
Flight number 2, arriving from New York.
Elle est bonne, hein? Elle est bonne, cette soupe. Premier petit bouillon, là, ça fait 9 jours. Hein.
C'est pas un peu léger, comme un petit bouillon?
Si, c'est léger, mais bon, tu vois, il faut que la flore et tout ça, ça se remette en place. Et puis demain, une soupe un peu plus épaisse. Puis après, on verra.
C'est difficile quand même ces victoires, non? Qu'il faut fêter avec autant d'ascétisme.
Ouais, mais je crois que tu vois, ça fait vraiment partie des armes de la lutte non violente, ça. Le jeûne, bon, c'est pas vraiment un moyen de pression, mais.
Il faut remettre de l'eau.
C'était l'ultime recours, c'est clair.
Bon appétit.
Merci,
hein.
Merci.
Alors, t'as eu ton bouillon, toi?
Moi, j'ai eu mon bouillon, oui.
Et ça y est,
oui.
T'es rassasié?
Ça va, moi. C'est vrai? Oui, ça va.
Mais
ça
t'es
va,
rassasié ça. De bouillon, mais pas de lutte.
Ah non, de lutte non, parce que bon, on n'a pas fini. Hein. C'est une première victoire. Maintenant, il va falloir s'occuper que le soja transgénique arrive de rentrer en France par millions de tonnes.
Hein. Une question de toute urgence, le sel, il est où ?
Je suis pas sûr qu'on en ait. La Biocoop n'a pas livré.
Alors, c'est Biocoop qui est partenaire du bouillon, c'est ça ?
Non, Biocoop nous a beaucoup aidés et Biocoop nous a fourni toute l'eau, toutes les tisanes depuis le début du jeûne.
Vous prenez pas de sucre, vous prenez que des légumes ce soir et demain. Et comme ça, vous allez préserver vos santé. Faites attention, ça part comme un cheval. Vous allez avoir envie de bouffer comme des ânes ou comme des chevaux. Et alors, donc, faites gaffe. Donc, pas de sucre, pas de protéines animales. Des bons végétaux tranquilles là, et ça vous continuera à vous faire du bien à votre organisme.
Voilà, 17 bols sur la table et autour ceux qui ont jeûné pendant 9 jours de grève de la faim, une grève de la faim commencée le 3 janvier. Il n'y a pas que José Bové qui a fait la grève, mais tous ces militants anti-OGM qui s'étaient hébergés au ministère de la crise du logement, rue de la Banque, à Paris, juste à côté de la Bourse de Paris et à côté de l'AFP. Les médias, l'argent et la lutte. Voilà où nous sommes ce soir-là. Moi, j'étais tranquillement entre deux dîners lorsque mon téléphone a sonné. On m'a dit « ils ont gagné ». On m'a pas dit « ils ont gagné ». On m'a dit « on a gagné ». Et celui qui m'a dit « on a gagné », c'est Antoine Chao qui suit cette histoire depuis longtemps. L'histoire des OGM, les faucheurs. Il est lui-même faucheur, il faut bien cafeter un petit peu. Et là, il a suivi ce qui s'est passé ce soir-là, bien sûr, mais aussi les jours précédents, parce que s'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments de ça y est, on a gagné, et puis non, tout est foutu, tant cette lutte est puissante entre c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre, ou plutôt le pot de terre contre le pot de fer. Ça dépend des jours, ça dépend des minutes, ça dépend des heures, mais évidemment, face à des lobbies extrêmement puissants, relayés par le monde médiatique, relayé par le monde politique, face à ces faucheurs, face à ces anti-OGM, mais aussi face à une opinion. Bien sûr, on a toutes les distances qu'il faut, nécessaires vis-à-vis des sondages et des enquêtes d'opinion, mais depuis des années et des années, on sait que dans la grande majorité, à plus de 80%, dit-on, les Français sont hostiles à la culture OGM. Donc, c'est deux forces qui s'affrontent et qui se sont affrontées à travers cette grève de la faim à côté de ceux qui ont porté cette lutte jusqu'à cet épisode victorieux. Je souligne bien épisode victorieux parce qu'évidemment, la lutte n'est pas finie, la lutte continue, mais ce moment-là, ce soir-là, était un moment de réjouissance. De fait, on ne perd pas toujours.
Comment ils ont gagné?
Quoi, t'as combien?
Compris, moi je te fais confiance.
Par terre, les amis.
Comment c'est-à-dire?
Non, ça y est, il y a eu la dépêche qui est sortie, donc c'est la clause de sauvegarde est appliquée dans le cadre des principes de précaution.
Ça y est.
C'est trois lignes.
Cette bataille est gagnée. J'essaye d'apprendre à Antoine Chao qu'on ne dit pas, quand on est journaliste, on ne dit pas on a gagné, on dit ils ont gagné.
Oui, mais Antoine est faucheur, c'est ça son problème. Donc il a gagné avec.
Tous les jours il faut manger, il faut courir, tous les jours il faut courir, il faut gagner, tous les jours il faut gagner, il faut subir, tous les jours il faut subir, il faut manger, tous les jours il faut manger, il faut gagner, tous les jours il faut gagner, on va crever, tous un jour on va crever. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer.
Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Mieux vaut en rire tous les jours, mieux vaut en rire. Il faut tenir tous les jours, il faut tenir. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer.
pour raconter cette lutte, il faudrait revenir 10 ans en arrière et on aurait pas mal de choses dans les archives de la Bastille. J'y suis. Je me souviens d'épisodes au Brésil, à Porto Alegre, en 2001, enfin bien des Toulouse, etc. Bien des moments et des épisodes de ce combat. Mais on va revenir simplement quelques jours en arrière. On est le mercredi 9 janvier au ministère de la grève du logement, c'est-à-dire au DAL, où les jeuneurs sont réunis, et on voilà des explications de Jean-Baptiste Libouban, bientôt 73 ans, faucheur volontaire, agriculteur à la retraite et initiateur justement de ces faucheurs volontaires. Explication.
Alors, on est rue de la Banque, alors il ne faut pas faire de bruit, hein, parce qu'il y a quelques grévistes.
Ça va ici quand même, là, dans ce coin-là, on peut courir.
Donc on s'est mis un peu à l'écart, hein, Jean-Baptiste, pour tu me racontes un peu cette action, parce qu'on pourrait croire qu'une grève de la faim, c'est assez passif comme action, mais en fait, là, il y a plein de gens qui s'affairent, alors sans bruit en ce moment, parce que c'est l'heure de la sieste, mais dis donc, c'est vraiment une fourmilière.
Mais d'abord, ce jeûne, on ne l'a pas pris comme ça, là. Hein. Après le Grenelle, il y avait une réunion... le 9 novembre, au ministère de l'Environnement, avec Mme Kosciusko-Morizet, qui nous a dit que la clause de sauvegarde serait mise en route avant fin novembre. Donc, après le 5 décembre, on a appris qu'ils avaient pris un décret qui interdisait la vente des semences jusqu'au 9 février. Comme personne ne plante de maïs en hiver, c'était vraiment quelque chose de vraiment bidon, quoi. Donc, à cause de ça, à partir du 10, on a décidé la mise en route d'une grève de la faim pour protester contre ce manque de parole. Donc, tu vois, là, il y a eu un engagement. C'est le gouvernement lui-même qui nous a poussé, je dirais. En fait, celui qui a poussé à la grève de la faim, c'est le gouvernement, quoi, parce qu'il n'a pas tenu parole. Donc là, je crois que nous, on essaye de faire le contrepoids et d'amener, c'est ça le but aussi de la grève de la faim, à ce qu'ils ne décident pas sans tenir compte qu'il y a 80% des Français qui sont opposés quand même à ces OGM. Mmh. Et c'est ce qui fait ce coefficient aussi de sympathie qu'il y a actuellement pour cette action. Quand même.
Donc cette haute autorité vient remplacer la défunte CGB, voilà. Comité du génie biomoléculaire, qui était favorable à 100%, enfin peut-être bon, qui était acquise, disons, aux intérêts de l'industrie agrochimique.
Voilà. Il y avait 3-4 personnes, mais qui n'arrivaient pas à percer dans l'ensemble et qui donnaient des avis, d'ailleurs qui n'étaient aussi que consultatifs. Mmh. Et qui n'avaient pas la possibilité de faire des contre-expertises sur les propositions que faisaient les firmes. C'est les firmes qui choisissaient leur laboratoire. Mmh. Alors, on peut se demander aussi quelle est la validité d'une telle expertise quand c'est les firmes eux-mêmes qui les payent.
Parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers.
Non, elles n'avaient pas les moyens financiers. C'est effectivement très coûteux. Même si c'est sur 3 mois ou 6 mois, c'est sur des populations de rats sur lesquelles il faut vérifier. Et après, quand on demandait les résultats des expertises, on n'y avait pas droit non plus. C'est ce qui s'est passé pour le BT11, maïs BT11, aussi de chez Monsanto, parce que on disait c'est secret industriel. Donc ça voulait dire que secret industriel est plus valable que santé publique.
Voilà, là, toute la question est là. Là, le secret industriel, la logique industrielle contre ou qui prime sur la santé publique. La question posée était très claire. La question posée par le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, à cette haute autorité était précise. La question était, y a-t-il des éléments scientifiques nouveaux sur le maïs transgénique MON-810 depuis son autorisation par la Commission européenne en 1998, y a-t-il des doutes sérieux de nature à remettre en question cette homologation? Les réponses ont été claires. Oui, il existe des éléments scientifiques nouveaux. C'est ce qu'a déclaré Jean-François Legrand, sénateur UMP de la Manche, président également de cette haute autorité, lorsqu'il a remis cet avis à Monsieur Borloo. Oui, il existe des doutes sérieux. Pour les lever, il faut se donner du temps et des moyens. Cette déclaration, évidemment, pas fait plaisir à tout le monde, au sein même de la majorité, au sein même de l'UMP, travaillé par, évidemment, les pro-OGM, les lobbies, les céréaliers, les industriels de l'agriculture, etc., etc., qui sont, c'est une lutte très importante qui dépasse le folklore écolo. C'est une affaire de politique, de civilisation, de tout ce qu'on voudra, mais c'est absolument majeur. Effectivement, ça repose dans cette la formule de Jean-Baptiste Libouban, la logique industrielle contre la santé publique. Voilà, on continue avec l'histoire de ces luttes, enfin par épisode, parce que ça a été long, ça a été chaotique, ça a été violent par moments de bagarres contre les CRS, jusque les tribunaux, les innombrables procès aux faucheurs. Voilà André Bouchu, qui est paysan dans la Loire et secrétaire général de la Confédération paysanne, Jacques Pasquier, paysan dans la Vienne, secrétaire national de la Confédération paysanne, et Yves Mangui, qui est maire de Londigny, dites donc, en Charente, et premier porte-parole de la Conf, ce qui n'est pas mal.
Attention,
manipulation juridique.
La lutte, elle a commencé en Isère au printemps 1997, c'est-à-dire que ça fait presque 11 ans, par un fauchage d'un champ qui avait été semé illégalement par Monsanto. Les paysans de la Confédération paysanne et d'autres personnes sont allés faucher ce champ et sont allés déposer le contenu devant le siège de Monsanto à Lyon. Voilà comment a démarré, et derrière, ça a entraîné un certain nombre de procès qui ont abouti l'an dernier par une reconnaissance, enfin une sorte de non-lieu.
Ça s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu des fauchages, disons, aléatoires, au fur et à mesure où on trouvait des parcelles. Et il y a eu un tournant, c'est en 2001. Il y a eu un fauchage dans le Gard, un autre dans la Drôme, un troisième dont je me souviens plus de l'endroit, parce qu'il n'y a pas eu de procès. Et il était programmé d'autres dans la région de Bordeaux et un dans la Vienne, où il y avait eu beaucoup de CRS. Mais là, médiatiquement, ça a pris une autre ampleur, parce que sur deux week-ends de suite, 5 fauchages, ça avait vraiment mis médiatiquement le dossier sur le devant de la scène. Ensuite, en 2003, donc, après l'incarcération de José, la création des faucheurs a été vraiment une initiative qui a permis de construire quelque chose d'adapté pour lutter contre les OGM.
L'intérêt de la construction des faucheurs, c'est que les gens qui avaient envie de s'opposer aux OGM n'étaient pas que des paysans. Et si c'était resté dans le giron de la Confédération paysanne, en théorie, un syndicat agricole, c'est fait pour les paysans. Donc, à un moment donné, tout le monde a bien compris que c'était un problème de société. Les faucheurs sont devenus vraiment un outil au service de la société et des gens qui avaient envie de s'impliquer dans ce combat-là.
C'était quand on a eu le grand rassemblement sur le Lanzac, et c'est donc Jean-Baptiste là, Libouban, qui a lancé cette idée, et il y a eu quand même, je ne sais plus, 500-600 peut-être, ou 1000 même, je ne me souviens plus exactement, d'inscriptions pour pouvoir participer, et aujourd'hui nous en sommes à 7000. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce qu'il y a un autre élément dans l'histoire qui a été important, c'est celui des mélanges de semences à Nérac, dans Lot-et-Garonne. Au moment où, justement, il était prévu que le maïs OGM devait commencer à être semé dès 98. Et là, il y avait la société Monsanto, je crois, oui, ou Syngenta, avait donc stocké ces semences, et il y a eu une opération pour mélanger les semences OGM aux autres semences, de manière à ce qu'elles ne soient pas utilisables. Et là, ça a fait beaucoup de bruit, et c'est pas longtemps après aussi.
C'était il y a 10 ans exactement.
Hein. Il y a 10 ans, oui.
Jour pour jour.
José a été mis en garde à vue à la suite de cette action le 8 janvier 98. Donc on est vraiment à la date anniversaire, puisque nous sommes le 9.
Et alors, justement, après, c'est là, ça a permis, je crois, de poser ce problème des OGM. Et c'est à la suite de ça que, dans l'année, je crois que oui, c'est dans l'année qu'a été instauré le moratoire, qui a permis de reporter un peu les échéances jusqu'en 2005, en gros, disons, c'est là où leur problème s'est à nouveau reposé. À partir du moment où il n'y a plus de moratoire, il y avait la possibilité de semer des OGM.
Il y a eu un autre moment difficile pour les faucheurs, parce que là, aujourd'hui, on commence à espérer une campagne sans OGM pour 2008. Mais il y a eu un moment difficile, c'est en 2004, quand à Solomiac, puis à Valdivienne, les CRS ont envoyé des grenades explosives, grenades lacrymogènes. À Solomiac, il y a même eu un chien d'attaque qui avait été mis en liberté au milieu des manifestants. Et où ce jour-là, il y a eu vraiment une violence de l'État contre les faucheurs d'OGM. Là, vraiment, on a eu un moment de doute parce qu'on s'est dit on est en situation de guerre, les citoyens ne sont même plus entendus dans leur liberté de manifester, de revendiquer. La décision de la clause de sauvegarde qui s'approche, visiblement, ça sera la reconnaissance de ce que nous avions tous raison. Et c'est quand même, après tout le parcours juridique, et même cette violence-là de 2004, c'est quand même quelque chose de très réconfortant. Bon, espérons que ça aboutira aussi à l'amnistie de toutes les actions qui sont aujourd'hui prêtes à être jugées, où des gens sont condamnés. José vient d'être condamné à 4 800 euros d'amende, en gros. Jean-Émile Sanchez, ancien porte-parole de la Confédération Paysanne, lui aussi va être convoqué d'ici peu par un juge d'application des peines. Il y a environ 500 personnes aujourd'hui en attente d'être jugées pour des fauchages d'OGM, pour des actions dénonçant les OGM. Nous espérons que dans toute cohérence, la décision de la clause de sauvegarde s'accompagnera d'une décision d'amnistie, puisque c'est la reconnaissance du bien fondé de ces actions. Nous n'avons fait que notre devoir de citoyen pour protéger l'environnement.
Le don de la barrière de 50 mètres. Hein. Donc je vais m'avancer dans la parcelle et à un moment donné je vous dirai quand c'est transgénique.
Il faut qu'on dénonce, qu'on montre les parcelles, qu'on interpelle les gens. Donc il y aura différents types d'actions. Il y aura des fauchages certainement et des actions plus symboliques.
José Bové, le plus célèbre des faucheurs, a fait le déplacement en Ardèche. Il a revêtu pour l'occasion le t-shirt de circonstance où l'on peut voir un faucheur de maïs transgénique. Mais pas d'action hors la loi cet après-midi. Du symbole avec les manifestants qui se sont rendus sur une des trois parcelles avec du maïs conventionnel en fleurs. Ils l'ont agité pour que le pollen s'envole, passe au-dessus des CRS et aille contaminer les OGM. José Bové a même lâché l'OGM en Ardèche ne passera pas l'été. Lussas, Laurent Goria, France Bleu Drôme-Ardèche pour France Inter.
Nous demandons au gouvernement de mettre en place un moratoire, d'arrêter les cultures d'OGM en plein champ et de permettre à ce qu'il y ait un débat public et que les Français puissent ensuite trancher par un référendum.
Les grévistes de la faim du 24 rue de la Banque. Laurence Godefroy, 42 ans, Dordogne, paysanne.
Chantal Viala, 55 ans, Hérault.
Guy Delors, 56 ans, Berry, Saint-Amand-Montron.
Yves Mangui, 71 ans, Londigny, retraité agricole.
Maire.
Maire aussi, ah, il est maire de commune, ouais.
René Guiton, 73 ans, Morbihan, 56.
Et voilà, Jean-Marie ils étaient 17 vendredi soir autour de leur bol de soupe. Ils n'avaient pas le droit à autre chose, les grévistes de la faim. C'est un jeûne, ça s'interrompt pas comme ça en se précipitant au resto du coin et en débouchant des bonnes bouteilles. Et non, il faut que ce soit progressif. D'ailleurs, la préparation à une grève de la faim, c'est une toute une affaire. On peut pas se mettre dans une rentrer dans une grève de la faim comme ça du jour au lendemain. Il faut se préparer. Et après, une fois qu'on interrompt, eh bien, il faut revenir peu à peu. C'est toute une... Il y a des médecins qui sont là pour assister et surveiller, même si ça contrevient à leur serment d'Hippocrate, parce qu'il s'agit quand même d'une chose grave, une grève de la faim. C'est des gens qui voilà, qui détruisent leur santé. Alors, ça finit bien, là. Il se trouve qu'au bout de 9 jours, la pression a joué, sans doute, indubitablement, dans cette victoire, mais ça n'est pas rien. Alors, il y avait ces jeûneurs de la rue de la Banque au ministère de la crise du logement, c'est-à-dire au DAL, mais il y avait également des gars qui faisaient du camping dans les beaux quartiers. Enfin, du camping, pas tout à fait. C'était du caravaning, une caravane dans les beaux quartiers, pas dans n'importe quelle rue et pas face à n'importe quel immeuble.
Alors on est avenue de Ségur, 7e arrondissement de Paris. Il y a une caravane, donc dans les beaux quartiers, il y a une caravane qui est garée à côté de sapins de Noël, avec décoré, moratoire, OGM non, Sarko fait ce que t'as promis, Borloo tient ta promesse. OGM en liberté, agriculture contaminée. Voilà.
Et on est en face du ministère de l'écologie.
Bonjour, la porte est ouverte.
Alors là, on est en face des bureaux de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est ça?
Tout à fait. Tout à fait. On s'est retrouvés le 3 janvier sous la Tour Eiffel. Et la manifestation, le cortège est arrivé là. Cette caravane s'est glissée. On a eu beaucoup de chance de pouvoir se poser et on l'a investi dès le départ. Et une délégation a été reçue par Nathalie Kosciusko-Morizet.
Mais elle passe pas vous voir le matin en allant au bureau, quoi?
J'ai fait un piqué une fois à l'entrée pour voir si je l'apercevais. J'ai pas eu cette chance.
Donc elle n'est pas venue prendre de vos nouvelles, mais par contre, on a vu que le gouvernement s'est inquiété et a commencé à gesticuler. Donc la situation est quand même assez tendue. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui, enfin en fin de journée.
Oui, la situation est effectivement très tendue. Je dirais qu'il y a même des forces dont moi je n'ai pas conscience qui sont en train de s'affronter dans différentes commissions et ministères, des forces qui doivent être assez impressionnantes. Là, on est vraiment en attente de la décision de la haute autorité provisoire. Et le gouvernement a décidé de demander l'avis de cette commission. Mais cette clause de sauvegarde aurait pu être enclenchée sans. Et cette clause de sauvegarde est la traduction concrète de ce que nous on appelle en français le moratoire sur la culture du maïs en plein champ, du maïs OGM.
D'accord, donc on attend, quoi, hein, on est dans la caravane.
On sait juste qu'à l'intérieur de la commission, c'est un peu tendu. Voire très tendu, comme vous disiez.
Franchement, c'est pire que le ramadan. Si vous ne mangez pas comme ça...
C'est une question de dignité, on trouve. C'est trop important pour laisser passer.
Mais c'est bien, franchement. Pensez un petit peu à votre santé, quand même.
Jusqu'à une vingtaine de jours, il n'y a pas de problème de santé.
J'apprécie, franchement. Les gens comme vous sont rares. Et si vous, les gens comme vous, ils partent, donc il reste que les capitalistes. Hein.
Vous pouvez tous les jours avoir des petits gestes comme ça qui vous... comment dire? Chacun a sa façon personnelle d'avoir sa dignité, vous l'avez aussi. Et c'est important de se souvenir qu'on a sa dignité dans des petites choses.
C'est
ou
vrai.
Des grandes choses.
C'est vrai.
Et chacun a sa mesure.
Non, parce que franchement, la plupart des gens, ils s'en foutent, mais quand on voit les gens comme vous, qui font de la grève, de la faim, donc on dit que les gens bien existent encore.
Et là, on est porté, tous les passants comme vous nous encouragent. Ils nous amènent des paires de chaussettes, de l'eau chaude, de la tisane. On est porté aussi par les gens extérieurs. C'est ça qui nous permet de tenir.
J'espère qu'un jour vous allez réussir. Et on va vous entendre, quoi.
Eh bien, concrètement, ce soir, on a une décision importante. Avant 7h, avant 19h. Et si la décision qu'on attend arrive, on se dit, on est une vingtaine, là, on va faire péter la soupe. On va se remettre à manger.
Mais c'est bien. Mais, on va profiter alors.
Mais il ne faut pas anticiper. Hein. Mais on peut espérer. Quand même.
J'espère qu'ils vont vous écouter et vous arriverez à votre but, quoi.
Surtout qu'on n'est pas tout seul. On a quand même il y a une majorité de la population qui ne veut pas d'OGM.
Oui. Il n'y a pas mieux que le naturel. Il n'y a pas mieux. Eux, ils font ça pour gagner du temps. Et quand ils gagnent du temps, ils gagnent de l'argent. C'est pour ça qu'ils font ça. Il y a des intérêts derrière.
Il faut arriver à dire non un jour à des lobbies très, très puissants.
Il y a de l'argent à ramasser dans un minimum de temps. Ils font le maximum. Donc
Mais on imagine leur puissance.
C'est vrai.
Pour aller à l'encontre d'une population entière.
Oui. Bon. Ben, je vous souhaite un bon courage, une bonne résistance.
Merci.
Et gardez le moral, quoi.
Ça va, le moral. Le moral, il est vraiment bon.
Ça fait plaisir.
Oui.
Ça fait plaisir. Bonne chance, ça.
C'est formidable, tous ces gens qui passent.
Parce qu'a priori, c'est pas un quartier très accueillant, quoi.
Eh bien, si, c'est un quartier bien accueillant. Je pensais pas, en venant de province, que je pourrais passer quelques jours comme ça, dans une caravane, dans un des plus beaux quartiers de Paris. Avec un budget assez réduit, puisqu'on mange pas, et un logement où on paye rien. Mais bon, c'est pour la plaisanterie, parce que l'enjeu de la grève est important. Ouais.
Oui.
Et oui, la puissance des sociétés transnationales qui ont l'habitude de dicter leurs lois au gouvernement, là, il y a quelque chose qui s'enraye, qui est simplement l'opinion française, qui est majoritairement opposée à ces OGM. Il s'agit là, pour l'instant, que du Mont 810, mais c'est le cas de le dire, on dirait une montagne qu'il s'agit de franchir et de gagner. Eh bien, écoutez ce qui s'est passé, on revient rue de la Banque, ce vendredi à 19h.
Tout est question de mots et d'interprétation. Dans leur rapport sur l'innocuité du maïs transgénique du groupe Monsanto, le Mont 810, les membres de la haute autorité évoquent des interrogations en matière de santé ou d'environnement. Alors quand leur président parle de doutes sérieux, ça n'est pas dans le texte, et ils accusent l'homme politique d'interpréter des données scientifiques. Mais Jean-François Legrand relativise.
En tant que président du comité, j'ai participé à cette évaluation. En tant que parlementaire, j'ai aussi à participer à cette gestion du risque, et donc j'aurais dû probablement prendre un peu plus mon temps entre le moment où j'ai donné le texte et au moment où j'ai dit à monsieur le ministre Borloo, voilà les informations, voilà les interrogations, elles sont pour moi des doutes sérieux.
Les données scientifiques sur le sujet sont encore loin d'être complètes. Effectivement, les interrogations subsistent, mais la France pourrait appliquer le principe de précaution. Dans les prochains jours, le chef de l'État devrait suivre l'avis de la haute autorité et activer la clause de sauvegarde, ce qui permettrait d'interdire provisoirement la culture du Mont 810 dans l'Hexagone.
Wait and see, mais ça s'annonce plutôt bien. Allô. Oui. Oui. Ça y est. Donc voilà pour l'instant la première information qui confirmerait. Alors la France enclenche la clause de sauvegarde en vertu du principe de précaution. Ça c'est Matignon donc qui vient d'annoncer. C'est ce qu'on attendait, hein, puisqu'on avait dit que cette grève de la faim avait pour but d'obtenir la clause de sauvegarde. Donc bien évidemment, on se réjouit de cette annonce, parce que ça va permettre à l'ensemble des jeûneurs qui sont ici, rue de la Banque, mais aussi à tous ceux qui jeûnent à travers la France, de pouvoir suspendre cette grève de la faim et de pouvoir, à partir de là, commencer à se réalimenter.
Bravo. Alors là, franchement, je suis trop contente parce que Jean-Baptiste.
Ouais. Yeah. Ah ouais. Allez, courage, va. Vous n'avez pas jeûné pour rien. Hein.
Bah non.
Hein, quand même, non hein. On n'a pas jeûné pour rien. C'était assez incroyable de c'est tellement des gros lobbies tous ces gens-là.
Alors depuis le temps qu'on voit avec différentes méthodes,
c'est quand même c'est possible, hein. C'est possible. Ah oui, Guillaume.
Bravo à tous.
Hein.
Que la force reste avec nous.
Je crois que là, on en a.
Alors que quand même, ils ont tous reconnu que les lobbies étaient particulièrement.
Jean-Baptiste.
Oui. 10 ans d'action.
Ah bon, toi, l'affreux là.
Ah ben voilà, je voulais t'embrasser quand même depuis comme 95 qu'on est.
Alors, on a Apothécaire et José Bové là, qui s'embrassent, qui se félicitent mutuellement.
Voilà, ça y est. Hein, au moins déjà pour 2008, moins de contamination génétique.
Oui, mais tu te rends compte, c'est que nous, cette année, on n'aura pas à aller faucher les champs d'OGM.
C'est la première fois qu'on va être en vacances, pour de bon.
On va attendre quand même la loi.
Alors ce soir, c'est finalement Matignon qui annonce la décision. Matignon qui va maintenant envoyer le dossier de la haute autorité à Bruxelles, car techniquement, vous savez que c'est Bruxelles qui doit donner l'ultime feu vert en disant si oui ou non la clause de sauvegarde, le moratoire hein, en fait, semble justifié et ça peut prendre beaucoup de temps hein, pour que l'Europe rende sa réponse. L'Autriche par exemple qui avait activé cette même clause en 1999 attend toujours la sienne, mais en attendant en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a suspension des cultures. Il n'y aura donc pas de semis de Mont 810 dans les champs français au printemps. Ça risque d'ailleurs de déclencher la colère des agriculteurs de la FNSEA. C'est une victoire sans doute pour José Bové qui avait entamé une grève de la faim le 3 janvier pour réclamer cette clause de sauvegarde. Il n'a pas encore réagi à cette annonce.
alors,
c'est
José,
bon, c'est bon.
Une belle bataille, hein.
Belle bataille, écoute, ça fait quand même des années qu'on se bat et pour la première fois on arrive à avoir une décision politique contre les OGM en France, quoi. C'est vrai que je m'attendais pas que ça soit maintenant que ça arrive, mais voilà. Écoute, ça a été une vraie bataille. Je crois que la dernière ligne droite a été quand même très dure, quoi. Je pense que si on n'avait pas entamé cette grève de la faim, je crois pas qu'on serait arrivé à ce résultat, quoi. Ça a été un vrai bras de fer. On s'est rendu compte depuis 10 jours le poids à la fois des lobbies, des multinationales, mais aussi de la FNSEA qui ont tout utilisé, tous les moyens utilisés, y compris des députés, des sénateurs qui sont montés au créneau avec ces lobbies pour essayer d'empêcher que cette clause de sauvegarde se mette en place. Donc je pense que ça montre que si nous aussi on n'avait pas été jusqu'au bout du combat, jamais on n'y serait arrivé.
Et ça donne du cœur à l'ouvrage pour la lutte, non ?
Ah ben ça donne une pêche d'enfer pour le combat. Et je crois que ça montre que d'abord que la lutte ça paye. Et que si on reste les bras croisés, on n'y arrive pas. Mais que quand on lutte, et ben voilà, on peut y arriver. Même si ça met 10 ans, on y arrive.
Ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est comment la justice va réagir dans les procès de faucheurs, puisque maintenant, il est bien évident qu'on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas agi au niveau du principe de précaution. Donc moi, je suis passé à Orléans il y a un peu moins d'un mois. La procureure a demandé 5 mois de prison avec sursis en nous disant « tous les scientifiques disent que c'est pas dangereux, donc vous fabulez ». Donc il va falloir qu'elle revoie sa copie et je vais lui faire une jolie lettre en rentrant. Et j'espère bien que le juge va revoir le dossier et ne va pas nous remettre ces 5 mois de prison que nous ne méritons pas.
Donc là, c'est un appel, c'est ça ?
Oui, nous sommes des lanceurs d'alerte et on continuera puisque je vous dis, bon, dans les ports, en Bretagne et à Bordeaux, il arrive des centaines de tonnes de soja transgénique qui vont nourrir nos animaux. Donc il faut que les consommateurs sachent que cette viande qu'ils vont consommer provient d'animaux qui ont consommé des OGM. Et maintenant, on va se battre pour que ce soit étiqueté, que les gens aient au moins ce choix. Donc vous voyez, la lutte continue.
De plus belle.
Bah là, ça va nous booster, hein.
La lutte continue de plus belle. Voilà ce qu'on entendait vendredi soir avec ces jeuneurs. 9 jours de grève de la faim, rue de la Banque, au Dalles. Mais quand même, on peut s'interroger quand même un peu sur l'état de notre démocratie. Faut-il vraiment en passer par ces extrémités dramatiques? Là, on s'amuse, on rigole, mais enfin, c'est quand même des gens qui mettent leur santé en péril, leur vie, tout simplement, en péril à travers la grève de la faim. Faut-il en passer par là, vraiment, pour simplement dialoguer, échanger des points de vue, la santé publique contre les intérêts des multinationales, avec ce qui devrait être un arbitrage, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la puissance publique, qui devrait être là plus ou moins quand même pour protéger les citoyens. On est un peu perplexe quand même, on peut quand même être perplexe sur l'état de notre démocratie et sur le rôle que les citoyens y jouent. En tous les cas, ceux-là jouent leur rôle à fond. Alors, donc, sans triomphalisme aucun, toujours, et on célèbre cette petite victoire, grande victoire, comme on voudra, on verra la suite. Mais la suite, eh bien, c'est l'Europe, parce que ça, c'est hexagonal. Mais autour de notre hexagone, il y a l'Europe. Et que va-t-il se passer au niveau européen ? José Bové.
Attention.
Manipulation génétique !
La France envoie donc cette lettre, cette clause de sauvegarde, pour annoncer, selon l'article 23 de la directive européenne sur les OGM, qu'elle suspend l'autorisation de culture du maïs Mont 810. Suite à cela, l'Union européenne va instruire un dossier pour voir si elle accepte cette clause ou pas, la Commission de Bruxelles. Comme elle l'a fait dans tous les autres cas, elle va dire qu'elle n'est pas d'accord, puisque c'est cette commission qui, avant, avait accepté ce maïs. Donc, suite à ça, va être demandé l'avis au Conseil des ministres européens qui vont trancher. Est-ce qu'ils suivent la France ou est-ce qu'ils suivent la Commission ? Si le Conseil européen dit « nous sommes d'accord avec la France », eh bien, la clause de sauvegarde est valable pour un délai indéterminé jusqu'à ce que les motivations qui ont été dans la lettre, c'est-à-dire toutes les nouvelles études scientifiques, tous les doutes puissent être levés, ceux les doutes qui ont été portés par les études scientifiques. C'est une étape importante, mais qui ne pose pas de problème a priori, puisqu'aujourd'hui, la majorité des pays européens ont pris des clauses de sauvegarde ou ont pris en place des moratoires par d'autres formes. Donc on a aujourd'hui un consensus européen pour qu'il y ait un véritable moratoire. Et c'est ça qui est important, parce que grâce à la position française maintenant, on peut envisager une réorientation complète de l'état d'esprit de l'Europe vis-à-vis des OGM, vis-à-vis du développement de ce type d'agriculture. Et peut-être que dans les mois à venir, peut-être sous la présidence française dans le deuxième semestre 2008, eh bien on va pouvoir aller vers une réévaluation complètement différente des OGM et faire en sorte que ces OGM ne se développent pas sur le territoire européen.
Voilà, je crois que nous devons mener le combat comme nous l'avions dit.
Bien, c'est Gérard, le papy écolo en colère, heureux. Heureux d'abord parce que je voudrais lancer un petit message à certains turiféraires des OGM, à certains turiféraires des sociétés produisant... Non, allons jusqu'au bout, des mafias qui produisent ces OGM. Et j'ai envie de leur dire ceci. Monsieur Bizet, Monsieur Terrain, Monsieur Gracien, aux gens de l'UIPP, aux gens de la GPM, aux gens du GNIS... Nous ne voulons pas faire de triomphalisme bête,
non.
Mais nous vous avons simplement aujourd'hui, enfin hier, avant-hier et ces jours-ci, montré que vous mentiez. Et ça, c'est peut-être notre plus grande victoire. Et dorénavant, vous ne pourrez plus prendre, ne serait-ce que les Français, pour des cons. Voilà, et ça, ça me fait plaisir. Au revoir, messieurs. Mais tu vois, ça, c'est des trucs...
Ça fait vachement court.
Ouais. Je sais, mais...
C'est fatigué, c'est le coup de fatigue, t'as un coup de pompe.
Non, c'est pas ça, tu sais.
Mais reprends un peu de bouillon et on... Ah et on recommence.
Il y a une chose qui est importante, et les Français devront forcément y penser. Notre combat, c'est pour qu'ils puissent dire « Nous voulons pouvoir manger avec ou sans OGM ». C'est le plus important. C'est le plus important, c'est que les Français soient conscients qu'enfin, sur ce sujet, ils auront le choix. Et ça, c'est extraordinaire.
Et ça, c'est extraordinaire. Donc, on est vendredi rue de la Banque. Et vous, les fidèles de la Basse J'y suis ont reconnu cette voix, celui qui laisse des messages dans le répondeur de la Basse J'y suis, en commençant par ce Gérard, le papy écolo en colère. Mais on a toujours des difficultés avec Charlotte ou avec Christophe pour les messages, parce que c'est généralement très long. C'est généralement très long. Alors, souvent, on peut pas les passer. Et là, on était tout étonnés avec Antoine que... Gérard, le papy écolo en colère, nous fasse une intervention aussi courte. Mais heureusement, il s'est rattrapé.
Mais il est évident que quand des gens comme nous sommes en face de lobbies énormes, de multinationales comme Monsanto, qui peuvent se permettre, par exemple, McKinley, qui est un des plus gros cabinets d'avocats du monde. Il ne faut pas oublier que Mme Lagarde, qui aujourd'hui est ministre des Finances, a travaillé pour McKinley pendant plus de 20 ans. Elle était présidente du principal think tank, c'est-à-dire du principal organisme qui défendait l'industrie américaine contre l'industrie française pendant 23 ans. Eh bien, cette dame qui défendait Monsanto donc pendant plein d'années, je me dis qu'il y a quelque chose de formidable, c'est une revanche extraordinaire. Faut pas oublier que Madame Lagarde a été ministre de l'Agriculture 3 mois, je crois. En 3 mois, elle a réussi à faire une chose, c'est d'aller à Bruxelles et, en tant que ministre de l'Agriculture, de botter en touche et de ne pas voter non sur 2 maïs qui sont extrêmement dangereux, puisque Monsieur Dimas, commissaire à Bruxelles à l'environnement, est en train de le dire, est en train de le dénoncer. Parce qu'il faut le savoir, défendre 23 ans Monsanto et savoir que des petites gens réussissent à battre Monsanto, son ancien client, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est une sacrée lueur d'espoir, je pense, pour tous les gens qui ont un combat finalement juste. Et la justice, c'est pas forcément ce que disent les procureurs et les avocats des grosses sociétés. La justice, c'est aussi ce que disent les peuples. Et ça, peut-être que c'est le plus important, à mon avis. C'est ce que disent les peuples, parce qu'un peuple, c'est important. Voilà.
Donc là, on est au bord du champ.
Vous pouvez vous enfoncer par là-bas. Un pied de maïs par personne, pas un de plus. Opération de fauchage limitée ce matin.
Ici, le problème avec les plantes agricoles, c'est que personne n'a démontré en amont l'utilité sociale. Personne n'en a discuté avec l'ensemble des représentants de la société civile. On nous met devant le fait accompli, on nous dit si, vous allez voir, ça va résoudre la faim dans le monde, ça va permettre de faire les médicaments, etc., etc. Et du coup, c'est forcément bien, et on essaie, comme cela, de nous les imposer. Si demain, il y a un OGM agricole dont l'utilité sociale est évidente, et que les citoyens sont demandeurs, probablement qu'on acceptera qu'on puisse court-circuiter un certain nombre d'étapes dans l'évaluation, et prêt à prendre un certain nombre de risques potentiels, parce qu'il y aura un bénéfice pour l'ensemble de la société qui sera évident et qui sera gigantesque. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il n'y a aucun bénéfice pour qui que ce soit. Si ce n'est, bien sûr, pour ceux qui font la promotion de ces OGM, qui les fabriquent et qui les vendent. Mais voilà.
Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM, on n'en peut pas.
Est-ce qu'un chercheur en génétique peut chanter en chœur avec ces gens-là? Est-ce qu'un chercheur en génétique peut parler comme il vient de le faire? Il s'appelle Christian Vélo et la question a été posée à l'Institut d'Orsay où il opère et où il est connu pour ses avis critiques sur les cultures transgéniques. Eh bien, ça s'est très très mal passé. Christian Vélo se dit victime dépression de sa direction qui est allée jusqu'à l'éviction de lui et de son équipe, ce qui ne l'a pas empêché de continuer le combat, mais ce qui en dit long sur la pression, encore une fois, comme disait quelqu'un quelques instants, de ces gros lobbies. Alors on va finir avec lui, et ça on était jusque-là vendredi soir, là c'est samedi, et oui, le lendemain, la lutte continue, Christian Vélo.
Les OGM, on n'en veut pas.
Christian Vélo, cette décision, alors, prise par le gouvernement ?
Ben, un grand bonheur, parce que c'est enfin la reconnaissance par un comité d'experts, de travaux scientifiques qui avaient été jusqu'à présent ignorés, ou en tout cas négligés, et qui démontrent des effets collatéraux de ce maïs OGM. Donc, quand on est dans, comme dans mon cas, où on se bat depuis des années pour faire de l'information citoyenne et pour alerter dans le cadre de cette information sur des risques environnementaux, sanitaires, en disant que la technologie OGM est une technologie aléatoire où on ne contrôle rien et que le pollen ne s'arrête pas à 50 mètres comme le nuage de Tchernobyl à la frontière franco-allemande et qu'enfin on entend la conclusion d'un rapport qui nous parle de dissémination sur centaines de kilomètres, déjà ça paraît beaucoup plus sérieux et puis qu'on prend en compte toutes ces publications publié dans des revues à comité de lecture ces dernières années, qui avaient donc été totalement ignorées, eh bien donc ça c'est déjà un grand grand bonheur, et puis un grand bonheur pour tous les militants anti-OGM, les grévistes de la faim, qui sont vraiment des éveilleurs de conscience, qui payent de leur personne, qui prennent des risques, et pas pour des intérêts personnels, mais pour l'intérêt général, pour l'intérêt public, pour les générations futures, pour le respect de l'environnement. Et puis je dirais qu'indirectement, eh bien, ils se battent aussi pour une science beaucoup plus démocratique, beaucoup plus citoyenne, pour une science transparente. Et ça, vraiment, je suis admiratif de leur combat. Et si nous, les scientifiques, qui souhaitons alerter les citoyens, avons un public qui vient nous écouter, eh bien c'est bien parce que il y a eu ces lanceurs, ces éveilleurs de conscience que sont les faucheurs d'OGM qui ont fait des actions médiatiques, qui ont permis au grand public et également aux mots scientifiques de se poser la question de ce qui se cachait derrière ces trois lettres OGM.
Alerte, manipulation génétique.
Voilà, merci et bravo à tous, à tous les amis grévistes et faucheurs volontaires et autres éveilleurs de conscience. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez pendant 24 heures réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Et où vous pouvez réécouter tout un tas de numéros de Là-bas si j'y suis, ad libitum, autant que vous voulez. Et nous vous signalons que Chasse-Loup
sera en concert au Théâtre des Blancs-Manteaux, 15 rue des Blancs-Manteaux, dans le 4e arrondissement, à Paris, à 20h chaque soir jusqu'au 16 février. C'est Jean-Philippe Jeanne et Aurélie Fortin qui étaient à la technique aujourd'hui. C'est Coy Nguyen et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission. Et c'est Charlotte Perry qui fait deux choses, à la fois l'assistante de la Bastille de Suisse qui n'est pas rien et qui est en charge du répondeur dont vous connaissez le numéro. C'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.